la loi des séries, mais la deuxième conférence qui devait être tenue par Madame Nathalie Lelièvre est remplacée par, sur le même thème, par la présence de, des mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire Madame Xavier Santoni, le docteur André Cheras, le docteur Laurence Pesquet qui est venu nous rejoindre et qui est médecin du sport, et Madame Chantal Calatayud.
Oui, alors, sa parole. Oui, juste vous signaler que nous n'apprécions pas du tout ces désistements de dernière minute, surtout quand on nous explique que c'est pour cause de grève de TGV, parce que vous nous faites la gentillesse de venir, de vous déplacer. Nous nous sommes débrouillés quand même pour ne pas rester coincés sur des rails, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc nous n'apprécions pas du tout, on tenait quand même à vous le dire. Donc là, c'est pareil, alors là... C'est vraiment plus que de l'improvisation et en ce qui me concerne, je vous remercie de votre compréhension. Voilà, Laurence.
Donc nous avons choisi de vous apporter des éléments de réflexion sur l'euthanasie, d'autant plus qu'il y a donc une proposition de loi qui est en cours de discussion actuellement à l'Assemblée nationale avec une présentation donc, des différents orateurs hier après-midi. Nous sommes donc dans le thème du sujet, dans le vif du débat. Il faut savoir que c'est une loi qui propose une législation sur les droits des malades en fin de vie et que donc, par là même, elle relance quand même le débat sur l'euthanasie sous une forme particulière puisqu'il s'agit d'un texte qui devrait permettre explicitement l'arrêt des traitements médicaux sur demande des patients, même si cet arrêt, je dirais, met sa vie en jeu et qui doit aussi permettre et mentionner que le médecin qui peut utiliser des produits à visée antalgique, donc contre la douleur, mais qui, dans le même temps, ces médicaments ayant des effets secondaires peuvent entraîner la mort, aura le droit de le faire. Je dirais le problème que ça véhicule, c'est déjà que dans les médias, on parle actuellement d'euthanasie passive. Donc, lorsqu'on lit les différentes coupures de presse sur cette loi qui, elle, s'appelle « Droit des malades en fin de vie », régulièrement, ce que j'ai pu lire, ce terme d'euthanasie passive qui est donc reconnu par certains, qui est décrié par d'autres, puisqu'il existe déjà une législation sur les droits des malades en fin de vie. Donc j'ai repris un petit peu la définition d'euthanasie. Sur le plan étymologique, euthanasie revoit à euthanos, qui signifie donc la bonne mort. Si l'on prend la définition du petit Robert, euthanasie signifie une mort douce et sans souffrance. Bon, couramment, pour nous tous, ce terme signifie provoquer ou hâter la mort pour abréger les souffrances. Et on commence en fait à distinguer deux types d'euthanasie, ce qu'on appelle l'euthanasie active, qui suppose le geste d'une tierce personne qui va donner la mort, et donc ce nouveau terme d'euthanasie passive qui est l'arrêt des médicaments, sauf les soins palliatifs, donc ce sont les soins à visée antidouleur pour soulager le malade, mais donc cet arrêt des traitements qui va abréger la vie de fait, mais lorsque le cas est désespéré. Donc ce terme d'euthanasie, d'euthanasie passive, il est discuté. Il faut savoir que le code quand même de déontologie médicale est quand même très précis et très clair par rapport aux malades. Donc il y a deux articles qui sont importants, qui sont l'article 38 et l'article 37. L'article 38 prévoit que le médecin doit accompagner le malade jusqu'à ses derniers moments. Il doit s'assurer qu'il reçoit les soins adaptés à son état. Il doit s'assurer de la dignité de son accompagnement dans son chemin, avec une prise en charge également de l'entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, et s'il le fait pour abréger ses souffrances, il est à ce moment-là effectivement passible de condamnation pour des chefs d'inculpation tels que l'empoisonnement ou le meurtre. Ça, c'est l'article 38. Donc c'est le mot, je retiens le mot surtout dignité du malade, parce que le débat il porte à l'heure actuelle là-dessus sur une mort digne. L'article 37, lui, précise que lorsque tout espoir de guérison disparaît, le médecin doit poursuivre sa mission auprès du malade, auprès de sa famille. Il doit prendre en compte ses besoins corporels, ses besoins physiques, ses besoins psychiques. Il doit prendre en compte son entourage pour l'accompagner et prendre en compte sa souffrance. Il doit éviter de poursuivre tout traitement thérapeutique déraisonnable, toute investigation thérapeutique. Donc, là déjà, le positionnement, je dirais, est assez clair. Et vous avez l'article du Code de santé publique qui précise aussi qu'aucun acte médical, aucun traitement ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Pour essayer de clarifier la situation, la loi Kouchner du 4 mars 2002 a précisé que toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur et que les professionnels de santé doivent mettre en œuvre tous les moyens à disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Voilà, le terme est lâché, c'est une vie digne jusqu'à la mort. C'est une phrase qui est le reflet de préoccupations actuelles au niveau de la société, qui est l'attitude à adopter pour des souffrances jugées intolérables par le patient, présentées telles quelles, des souffrances jugées intolérables par la famille, parce qu'il y a ces deux composantes qui interviennent. Cet état se produisant sur un patient qui est en fin de vie, sur une maladie donc incurable, mais aussi pour tout ce qui est les handicaps majeurs, et donc bien sûr, là je pense évidemment aux tétraplégiques, puisque cette histoire rejaillit un an après l'histoire du fils de Marie Humbert, tétraplégique. Et elle pose aussi le troisième problème de ces patients qui vont rester sous respirateur en réanimation pendant des mois et qui sont inconscients. Donc ça, ce sont effectivement les trois grosses problématiques de fin de vie, entre guillemets, ou de changement de vie. Donc, l'attrait de la proposition « mourir dans la dignité, à l'heure choisie, par le malade, par le moyen choisi, séduit », et relance donc régulièrement ce débat sur l'euthanasie. Il est évident que lorsqu'arrive le problème, c'est-à-dire handicap définitif ou fin de vie, la situation change au sein de la famille et le rôle du médecin est à ce moment-là de poursuivre l'accompagnement du malade donc sur ce parcours, sur cette fin de vie, et aussi de prendre en charge sa famille. Tout change. La situation donc est difficile pour le malade, elle l'est tout autant pour la famille. L'accompagnement va prendre en compte déjà le malade, c'est-à-dire sa demande, ses besoins, prendre du temps pour discuter avec lui, répondre à ses questions s'il le souhaite, respecter son silence s'il le désire, et pourtant poursuivre aussi ce travail. C'est parler librement de ce qu'il vit au temps présent, de ses limites qui arrivent. Et dans le même temps, il va falloir consacrer du temps à la famille pour l'aider dans ce travail de changement d'état, de bouleversement familial. C'est accepter une perte ou une séparation à venir qui déstabilise, qui fait peur, qui entraîne une souffrance importante. C'est un principe aussi sur des fins de vie d'une mort annoncée qui renvoie à une angoisse de mort qui nous touche tous. Donc un principe de réalité. Donc ce sont des sujets qui sont effectivement pas faciles. C'est aussi lorsqu'on a malade, donc quelqu'un qui est gravement malade ou quelqu'un qui est un handicap important, c'est rentrer dans un cercle médical, dans un suivi médical qui est là, qui est pesant, qui intervient dans sa vie. Tout accompagnement va se faire donc soit à domicile, soit sur des unités de soins spécialisées. Et cet état de fait va renvoyer chacun par rapport à sa propre souffrance, par rapport à son histoire et à des événements qu'il a pu déjà vivre dans sa famille, c'est-à-dire des répétitions en chaîne, par exemple, de disparition dans des familles, ce qui à ce moment-là change aussi et majore l'attitude derrière. Donc, le médecin, il se doit de soulager, il se doit de guérir. S'il le peut, il se doit d'accompagner toujours. Donc, si toutefois un malade va en être amené à lui parler d'euthanasie, donc demander à ce qu'on le soulage et à ce qu'on l'aide à mourir, je dirais, plus rapidement que prévu. La question se pose parce que est-ce que le médecin est bien la bonne personne qui est amenée de discerner, qui est à même de discerner si une demande d'euthanasie répond bien à un désir réel du patient ? Est-ce que c'est vraiment ce désir au plus profond de lui-même ? Est-ce que cette demande qui va être formulée sur le moment peut être entendue aussi comme un appel à l'aide, masqué, bien évidemment ? Est-ce qu'on peut l'entendre comme aussi une volonté de ne plus être à charge pour la famille, de ne plus être une souffrance, finalement d'alléger sa famille ? Donc il y a ce premier volet à prendre en compte, c'est donc cette demande de la part du malade, et après il faut prendre en compte aussi la demande de la famille d'euthanasie qui fait écho souvent, parfois, qui est aussi de se demander si cette demande n'est-elle pas l'expression d'une souffrance en fait intolérable pour la famille, mais sans être également une réelle nécessité. Donc, y a-t-il pas en fait une prise en charge ou une discussion à reprendre ? Comment faut-il l'interpréter ? Sommes-nous à même, nous, de faire le discernement au milieu de toute cette problématique ? Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est lorsqu'on parle de fin de vie, on parle de temps, de durée, on parle d'un terme à vie et on nous demande souvent de prévoir une date, de prévoir une évolution. Mais sommes-nous toujours sûr d'un point de vue médical à 100% du diagnostic et d'une fin véritable à venir, donc en termes de durée bien définie, parce que c'est sans compter à ce moment-là sur le psychisme de l'individu qui peut à tout moment prolonger une situation qui pourtant était apparemment condamnée et éventuellement la renverser, en tout cas la prolonger sur une durée qui peut être de plusieurs mois. Ce qui change, à mon avis, considérablement la donne. Donc, peut-il y avoir raisonnablement une loi qui définisse les limites qui vont autoriser un médecin, à donner la mort à son semblable ? Est-ce possible de légiférer sur ce sujet ? Qu'en est-il du risque de dérapage sur un texte de loi avec les termes fin de vie? Et si on rentre dans ce système-là, qu'en est-il ensuite dans les années à venir de la confiance médecin-malade, puisque le médecin qui est celui qui accompagne et qui guérit peut devenir celui qui donne la décision de mourir, mais qui quelque part peut la provoquer. Donc toute la problématique, elle est là, et c'est pour ça qu'effectivement, c'est un sujet qui reste délicat, et que ce terme, à mon avis, d'euthanasie passive, qui est en train d'être vulgarisé au niveau médiatique, n'est pas du tout anodin. Donc certains crient en disant que c'est insuffisant, d'autres répondent « ouf, on a évité le pire », parce qu'on commence effectivement à faire entrer comme usage courant, mais sous le biais d'une loi, ce terme d'euthanasie avec toutes les implications que cela entraîne derrière. Donc, j'ai pensé demander au docteur Cheyras, de par une expérience dans le domaine gynécologique, des avortements thérapeutiques, des avortements thérapeutiques répondent à une loi qui est ancienne, qui est légiférée, de peut-être de réfléchir avec nous sur le risque de dérapage, puisque en fait la problématique elle est là, et de voir un petit peu les éléments que l'on dispose déjà dans ce domaine, mais dans le milieu à ce moment-là plus spécifique de la gynécologie.
Oui, il y a un excellent modèle de finir une vie pour les médecins déjà et de façon tout à fait légale, qui n'est donc pas celui de l'euthanasie dont on parle, puisque ça concerne des personnes, mais celui des fœtus, ou qui ne sont pas considérés comme des personnes sur un plan de la législation. Mais déjà, depuis donc de très très nombreuses années, il y a la possibilité pour les médecins d'interrompre la vie d'un fœtus jusqu'à 9 mois de grossesse. La loi en France permet de le faire durant la totalité de la grossesse. Et ça peut être un modèle, c'est simplement pour peut-être réfléchir à ce qui pourrait se passer après une législation votée concernant les personnes, comme c'est le cas, mais voir comment peut exister effectivement sur ce modèle, on se rend compte, peuvent exister des risques de dérapage. Alors autrefois, tous les obstétriciens ont été très longtemps des gens qui ont euthanasié. On a euthanasié autrefois beaucoup d'enfants, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas les moyens de diagnostic actuels au niveau des malformations, et l'on avait à la naissance des enfants avec des malformations graves, donc que l'on euthanasiait, dont on abrégeait une vie qui était de toute façon extrêmement compromise, puisque les interventions n'étaient pas celles que l'on peut faire maintenant, donc on n'avait pas de possibilité de traitement. Certaines étaient des malformations neurologiques incompatibles pour beaucoup avec la vie, mais c'était des enfants qui pouvaient vivre 24 heures, 36 heures, 48 heures. Et donc, il y a eu beaucoup de gestes d'euthanasie de fait. Ensuite, ces gestes ont beaucoup diminué, il faut être réaliste, par la crainte du médico-légal et par le fait que ce qui pouvait se passer il y a 30 ans ou 40 ans d'une façon relativement anonyme, entre guillemets, ce n'est plus possible actuellement. Et puis, le problème s'est posé de moins en moins parce que les techniques, en particulier d'imagerie avec les échographies, ont permis de diagnostiquer une très grande partie des malformations incompatibles avec la vie ou de malformations génétiques graves. Et donc, à ce moment-là, on s'est trouvé non plus confronté avec l'euthanasie active, l'enfant étant né, donc l'enfant né de toute façon devenu une personne, du moins à partir du moment où il était déclaré, donc on peut jouer l'équivalence là sur les mots, mais disons c'était une personne vivante, donc l'euthanasie a disparu pratiquement, sauf dans certains cas de réanimation un petit peu lourde, où on prend la décision d'arrêter une réanimation sur un petit fœtus dont on pense que les dégâts vont être irréversibles. Mais par contre, on est passé à une demande de la part. Et c'est ce qui fait, je crois, le modèle, un peu pour voir ce qui pourrait se passer en cas de dérapage. On s'est retrouvé confronté maintenant à une demande des familles, c'est-à-dire à une demande des parents sur le diagnostic d'anomalie que l'on va faire en cours de grossesse sur une image échographique. Et la législation permet, je vous le disais, en France, d'intervenir jusqu'à 9 mois de grossesse sous réserve d'un accord collégial. Ce n'est pas un médecin qui va prendre la décision, mais ce sont deux médecins dont un fait obligatoirement partie d'un centre de diagnostic prénatal, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait référence et qui connaît bien la pathologie en question. Mais on s'est rendu compte du dérapage actuellement, en ce sens que les demandes par les familles d'arrêt de grossesse se font maintenant très souvent sur des lésions relativement minime, c'est-à-dire que l'on fait une très bonne distinction entre des malformations organiques, par exemple cardiaques, digestives, pour lesquelles, quand on explique aux familles, après avoir fait le diagnostic, les possibilités thérapeutiques, eh bien, l'acceptation des familles se fait, et l'adhésion des familles à poursuivre la grossesse peut se faire, après une bonne information, relativement souvent. Par contre, dans d'autres cas, sur des malformations qui ne mettent absolument pas en danger ni la vie du fœtus, ni son intelligence, et ce sont les malformations visuelles, apparentes, c'est-à-dire on a beaucoup de demandes pour des diagnostics, par exemple d'une agénésie, c'est-à-dire d'une absence d'une main, de l'absence de deux doigts à une main, de l'absence d'une jambe. Eh bien, sur des anomalies qui sont des anomalies qui ne mènent rien, aucunement en cause la survie de l'enfant, sans que l'on ait a priori aucun lien avec un risque non plus psychique au niveau de son état mental à la naissance et après ultérieurement, et bien là on a des demandes farouches de la part des familles pour obtenir une interruption de la grossesse. Ce qui entraîne d'ailleurs un nomadisme parfois des familles, puisque les centres de diagnostic prénatal refusent dans ces cas-là souvent et la plupart du temps l'interruption de grossesse qui n'est pas en fait justifiée du tout, eh bien ces familles vont de centre en centre pour essayer de trouver un centre qui va finir par l'accepter ou vont à l'étranger si le diagnostic est fait assez précocement, avant 24 ou 25 semaines, puisque certains pays autorisent l'arrêt de grossesse volontaire à ce stade. Alors ça, c'était simplement pour vous dire qu'on a donc un modèle un petit peu où la conscience de l'intéressé, c'est-à-dire la conscience du fœtus et sa volonté, bien sûr, n'est pas prise en compte et où il y a un risque de dérapage quand même au niveau des familles qui montre que ce n'est plus la souffrance de l'enfant qui va être le justificatif de l'interruption de vie, mais cela va être le risque de souffrance des parents et de la famille qui devient en fait la raison de la demande. C'est un modèle, bien sûr, qui n'est pas celui de la personne née, mais dont on peut imaginer que les mêmes dérapages pourraient s'appliquer sur des personnes lourdement en charge pour leur famille. Et on se demande, que, dans certains cas, si effectivement il ne risque pas d'y avoir un dérapage dans cette demande d'arrêt de vie.
Donc, on voit ici, avec l'intervention du docteur Chéras, donc l'importance du positionnement de la famille en fait, face à ce malade qui, lui, est particulièrement démuni, puisque c'est lui qui est quand même le plus touché dans l'histoire. Donc, je pense que ce qu'il faudrait arriver à comprendre, et peut-être avec un éclairage analytique avec Xavier Santoni, sur le sens à donner à cette demande de la famille sur l'euthanasie, c'est comprendre pourquoi une famille peut être amenée, et pas une autre, puisqu'à deux situations identiques, bon, même face à un tétraplégique, vous allez avoir une famille qui va demander une euthanasie, mais toutes ne demandent pas ce genre d'intervention. Donc c'est essayer peut-être de comprendre un petit peu le positionnement d'une famille qui formule cette demande d'euthanasie à l'égard d'un proche et parfois à l'égard d'un sujet jeune. Ça vient ?
Oui, alors effectivement, d'un point de vue psychanalytique, on peut se poser la question. Alors d'une part, en ce qui concerne la personne malade qui, elle, va donc demander un acte d'euthanasie. Donc, comme disait tout à l'heure le docteur Pesquet, bon, cette personne qui peut se sentir effectivement un poids, une charge pour la famille, qui à ce moment-là va faire une demande, mais davantage par culpabilité. Et en face, donc, cette famille qui elle-même peut faire la demande. Et c'est vrai que d'un point de vue analytique, il y a ce qu'on appelle ce phénomène de la projection, qui en fait est un mécanisme très, très névrotique qui consiste à attribuer, on va dire, à l'autre son propre ressenti, ses propres sentiments. Et c'est la question qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est-à-dire cette famille qui affirme en quelque sorte être le porte-parole, on va dire, de cette personne malade, affirmant que c'est ce qu'elle que là est sa volonté. Est-ce qu'en fait ça ne correspond pas davantage, on va dire, à la demande de ceux qui vont faire la demande, qui eux ne peuvent pas supporter en fait l'handicap de cet autre en face et qui vont leur attribuer donc son incapacité à assumer la situation. Donc là, il est vrai que d'un point de vue analytique, on reste vraiment dans un doute à ce niveau-là. Est-ce que la demande de la famille ne correspond pas en fait à une demande qui lui est propre et non pas du tout à la demande véritablement de celui qui est malade? Donc ça semble tout à fait discutable. Et d'autre part, Laurence Pesquet donc soulevait également ce problème de comment se fait-il que certaines familles semblent pouvoir supporter mieux que d'autres une personne gravement atteinte, une personne handicapée dans leur entourage. Alors là, il y a aussi toute une question d'éducation. Il y a aussi des profils, on va dire, de familles très judéo-chrétiennes, comme on le disait tout à l'heure, qui vont se sentir, on va dire, obligées d'accepter cet handicap. Mais ça peut dépendre aussi de l'histoire de chacun, des degrés là aussi de culpabilité, voire même au niveau inconscient, plus ou moins grands, qui vont faire que pour certains, il peut y avoir aussi un aspect de sacrifice qui se met en place, et avec cette obligation donc à assumer, la personne très malade ou handicapée. Mais moi, ce sur quoi j'avais envie d'attirer l'attention d'un point de vue analytique, c'est qu'il est vrai que tel qu'on positionne les intervenants, il semble toujours qu'il y ait d'un côté, on va dire, donc la personne malade ou handicapée, donc à savoir la victime, et de l'autre côté, on va dire la famille, qui elle, bon, tient une place un petit peu plus extérieure. Mais d'un point de vue analytique, on peut dire aussi que jusqu'à quel point est-ce que la personne très malade n'est pas elle aussi n'est pas uniquement une victime, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi une certaine forme de bourreau vis-à-vis de ce de sa famille, de tous ceux qui l'entourent, ne serait-ce qu'en lui imposant, on va dire, son infirmité ou son handicap. Et c'est là où on peut nuancer en fait un certain nombre de choses où la victime ne serait peut-être pas forcément celle à laquelle on pense, où il pourrait y avoir comme ça des interactions de rapports dominants-dominés, parce que quoi qu'il en soit, il y a un rapport dominant-dominé, mais qui au conscient semble aller dans le sens de celui qui est dominé, la personne malade, et où d'un point de vue analytique, on peut voir les choses dans l'autre sens, où l'handicapé, en fait, la personne malade, va davantage contrôler son entourage de par son handicap. Donc il y a aussi cette position qui en analyse est peut-être envisagée différemment.
Oui, donc on le voit au niveau de la prise en charge donc d'un malade de gravement atteint. Donc je dirais que la douleur physique, c'est quelque chose qui arrive à se gérer à l'heure actuelle avec les moyens qui nous sont donnés et avec les soins palliatifs. Et donc là où on a le plus de mal tous, c'est la souffrance morale. Donc avec cette interférence, comme le dit Xavier Santoni, malade et famille. Donc c'est arriver à comprendre ce qui se passe à ce moment-là dans cette histoire familiale de fait qui s'inscrit ensuite dans un domaine médicalisé. Donc avec cette difficulté pour le médecin, je dirais, à se positionner et à y voir clair. Je pense qu'il serait peut-être intéressant, donc c'est de voir avec Chantal Calatayud, la position analytique sur l'euthanasie, avoir peut-être quelques éléments de réflexion sur l'euthanasie d'un point de vue analytique. La médecine, elle est aussi confrontée aux problèmes médico-légaux. Donc chez nous, c'est toujours plus compliqué à gérer parce qu'il y a de plus en plus de procès. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette loi qui cherche à légiférer certaines situations limites. Mais je pense qu'il faut voir après le raisonnement plutôt en termes de psyché. À ce moment-là, je peux peut-être nous dire quelques mots.
Oui, alors d'abord, beaucoup de choses ont été évoquées. C'est vrai qu'on a une position qui, là, certainement, s'éloigne du champ médical. Elle peut paraître très dure, cette position analytique, lorsqu'on la regarde de façon extérieure. Bon, tout le monde est bien d'accord, d'un côté comme de l'autre, il y a souffrance. Cependant, Freud a quand même travaillé sur un axe qui est extrêmement important et sensible donc pour le bon développement de l'humanité. Il est donc allé très loin, c'est-à-dire, on pourrait dire que supprimer une vie ou demander à ce qu'une vie soit supprimée ne va rien résoudre. Il faut savoir, donc indépendamment de tous ces règlements de compte, parce qu'il ne faut pas rêver. Bon, Laurence Pesquet tout à l'heure faisait allusion à la mère de Vincent Imbert. Elle a soulevé, bien sûr, cette femme a soulevé beaucoup de problèmes dans le milieu analytique, dans la mesure où un analyste ne pourrait pas passer à l'acte de cette façon-là. C'est absolument impossible. Si on reste très basique, une mère donne la vie. Donc on ne voit pas très bien comment elle peut reprendre la vie de son enfant. C'est-à-dire que pour nous analystes, on rentre quand même dans un champ pathologique. L'attitude de cette femme-là, même si on peut tout à fait, encore une fois, comprendre ce qu'elle a vécu, et comme le disait Xavier, finalement aussi, ce lien névrotique de ce fils à sa mère, la position analytique reste ferme. Une femme doit rester à sa place, elle enfante, c'est ce qui lui est demandé. On a pour habitude de dire que si les femmes étaient peut-être plus présentes au niveau de tous les gouvernements confondus et au niveau, bien sûr, du monde entier, il y aurait certainement quand même moins de conflits, moins de guerres, etc. Ceci dit, il y a quand même un autre aspect d'un point de vue analytique, c'est donc l'acceptation, puisque l'on sait que qu'il s'agisse d'une IVG, ou qu'il s'agisse effectivement, quelles que soient les raisons, hein, bien sûr, thérapeutiques ou pas, ou qu'il s'agisse d'une euthanasie, d'une demande tout aussi justifiée soit-elle, cela va perturber l'ordre des générations. C'est-à-dire qu'il va y avoir un manque qui n'est pas logique, puisque ça devient une espèce de déterminisme très ambigu de la part de l'inconscient, bien sûr, du pseudo-bourreau ou de la pseudo-victime, et de manque en manque sur les filiations, on va fabriquer ce que Jacques Lacan a appelé la forclusion, c'est-à-dire un trou. Et là, on flirte très vite avec ce que l'on appelle la psychose, c'est-à-dire que l'euthanasie pose véritablement la problématique du grossissement donc, d'un état filial psychotique, et c'est en ce sens que nous restons très sages. Non pas qu'on refuse de s'engager par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on reste quand même très tiède quant à une volonté qui échappe tout à fait au champ donc de la réalité. On est beaucoup plus partisan donc de l'acceptation. Alors effectivement, Dr Cheras le disait tout à l'heure, il y a des pathologies qui sont extrêmement lourdes, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais c'est vrai qu'il est certain qu'à force de banaliser certains actes, on se dirige quand même vers une espèce comme ça de complaisance, ce qui pourrait générer, donc dégénérer, des états prépsychotiques. Voilà, c'est en ce sens que nous sommes inquiets d'une trop grande banalisation, bien qu'encore une fois, on est suffisamment soumis à la plainte et à l'écoute de la plainte pour comprendre le désarroi. Tout à l'heure aussi, bon, Laurence faisait bien sûr allusion à la douleur physique, mais c'est vrai que pour le coup, actuellement, elle est quand même extrêmement soulagée, elle est majoritairement soulagée par le milieu médical. Donc on est a priori, en tant qu'analyste, j'insiste, pas très favorable à des gestes qui deviennent par trop banals et banalisés. On le voit au niveau, bon c'est peut-être pas à moi de dire cela, mais on le voit au niveau des demandes d'IVG, où en fait on a encore des jeunes femmes, tout aussi accompagnées soient-elles par un compagnon, qui confondent quand même IVG et contraception. Je ne sais pas si Dr Cheras veut ajouter quelque chose à ce niveau-là.
Donc, oui, un certain nombre de réflexions. Moi, je dirais au niveau expérience personnelle, pour tout ce qui est accompagnement des malades en fin de vie, il reste et il demeure que ce geste d'euthanasie n'est quand même pas quelque chose de spécialement facile à réaliser, même si, effectivement... On est connu qu'il y a des aides à partir plus rapidement qui se mettent en place dans les hôpitaux de temps en temps. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas facile lorsqu'on est acteur soi-même de ce genre de geste. Et c'est aussi une culpabilité qu'on a et qu'on garde après. Je pense qu'au niveau d'un médecin, l'accompagnement est important, mais le geste d'euthanasie, à mon avis, reste un pas particulièrement difficile à franchir et qui n'est pas quelque chose à envisager. Maintenant, légiférer pour améliorer sur le plan médico-légal des situations qui sont limites, et la question se pose essentiellement, je dirais, dans le domaine de la réanimation, puisqu'on en a beaucoup de malades sous machine. Ça, c'est un débat qui est ancien, et actuellement, l'Ordre est en train effectivement de réfléchir pour revoir les statuts et élaborer des nouveaux décrets qui correspondent plus à une société actuelle, justement, revoir un petit peu le problème. Donc là, voilà, quelques éléments un petit peu de réflexion, tant d'un point de vue de la loi que d'un point de vue médical. Avec ce lien donc avec l'avortement thérapeutique, quelque chose quand même sur lequel on a actuellement du recul, et un éclairage plus analytique. Est-ce que par rapport à toutes ces informations, vous souhaitez poser une question ou avoir un complément d'information?
Oui, vous avez souligné de façon qui me semble particulièrement juste la difficulté de parler librement de tout ce qui se vit au niveau du patient et des familles. Peut-être c'est là où il y a la carence la plus importante. Si aujourd'hui on s'occupe de la douleur physique, on sait à peu près le faire en médecine, Dieu merci, et c'est quand même très récent, trop récent malheureusement. Sur le plan psychologique, on a plus de mal puisqu'on voit beaucoup des équipes anti-douleur s'occuper de la douleur physique, mais avoir du mal à écouter vraiment un patient dans ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et la souffrance morale. Donc il y a vraiment quelque chose d'important à faire. D'autre part, décider de la fin de vie de quelqu'un, ça passe par le fait de beaucoup parler avec lui, le comprendre, l'aider à accéder à lui-même, et puis aussi pour la famille. Ça, c'est vraiment des points qui manquent le plus. Et ce que vous avez soulevé aussi, c'est est-ce que le médecin est la bonne personne pour faire ça? Alors, quelquefois, oui. Souvent, non, malheureusement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son rayon de travail, c'est pas ce à quoi il était formé de pouvoir accompagner les personnes sur le plan psychologique. Alors, il y en a qui vont savoir le faire parce qu'ils savent faire ça depuis toujours. D'autres, ils sont formés de façon spécifique là-dessus. Mais a priori, le médecin ne sait pas le faire. Et dans les hôpitaux, on a beaucoup de carences par rapport à ça. Alors, heureusement, il y a des services qui s'occupent un petit peu plus de cela, mais il y a beaucoup de carences. Je ne sais pas si vous avez des réponses par rapport à ça. Puis d'autre part, par rapport à la... Ça fait peut-être beaucoup de choses par rapport à la mère qui prend la vie, c'est plutôt sur le point de vue psychanalytique. C'est certainement très délicat, très complexe. En plus, le problème, c'est les situations limites. Parce que dans les situations extrêmes, c'est presque clair, même si c'est difficile. Mais il y a les situations limites entre les deux doigts qui ne justifient pas l'interruption thérapeutique et puis les autres cas qui sont extrêmes, ça paraît évident, mais entre les deux, on ne sait pas trop où est la juste position. Et quant au fait que la mère ne doit pas reprendre la vie, j'ai entendu des personnes ayant accompagné leur enfant en fin de vie, mais pas avec euthanasie, avoir le sentiment des mères, avoir curieusement du bonheur dans un moment comme ça, en disant qu'elles ont le sentiment d'avoir fait naître leur enfant une deuxième fois. Donc il y a des enjeux subtils aussi, extrêmement délicats. Il y a des êtres à écouter avec des ressentis qui malheureusement ne seront pas dans les lois. Il en faut quand même, mais ça ne sera pas dans les lois, tous ces ressentis. Alors par rapport à la question, c'est comment assurer une écoute de qualité de ce que vit vraiment le patient, de ce que vit vraiment la famille, à qui il n'y a pas besoin que de réponses techniques, mais aussi d'un accompagnement et d'une émergence des ressentis.
La question est juste, elle pose le problème de l'équipe qui va prendre en charge un malade. Donc il faut savoir que le médecin, il est formé sur le plan médical pur, et avec une formation psychologique, mais qui n'est pas développée comme des spécialistes, hein, des psychothérapeutes ou des psychanalystes. Et donc après, lorsqu'il va se trouver amené à prendre en charge un patient en fin de vie, il va avoir lui aussi ses propres angoisses de mort et ses propres projections par rapport à son histoire. Et c'est là aussi qu'interfère la position du médecin, qui d'ailleurs certains évitent la prise en charge d'un malade en fin de vie. Ça se voit beaucoup à domicile, c'est-à-dire que vous avez des médecins qui régulièrement se débrouillent pour hospitaliser le malade et en fait pour rendre son maintien à domicile impossible. Et sur la même situation, vous avez un autre médecin qui va être capable de l'assumer, en sachant que ça prend énormément de temps, que ce n'est pas des heures rémunérées, que ce sont des heures qui sont en plus, qui sont des heures humaines, et qui va être capable d'accompagner cette famille parce que lui a dépassé, ou en tout cas a travaillé différemment sur la mort, hein, sur cette réalité, et va pouvoir de fait amener un réconfort au malade et à la famille, et trouver les mots qui peuvent apaiser la souffrance. Pareil, les soins palliatifs sont en train de se développer, donc on travaille beaucoup sur la technique et sur le soulagement. On insiste moins, c'est vrai, et malheureusement, moi je le regrette effectivement, mais parce que ça m'intéresse, mais on développe moins l'entourage psychologique qui devrait, à mon avis, être aussi important que le côté technique dans cette situation-là. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aurait un certain nombre de demandes qui seraient, je dirais, exprimées d'une façon tout à fait différente.
Oui, juste un mot pour aller dans votre sens, c'est-à-dire vu sous l'angle d'un médecin hospitalier, les équipes de prise en charge dans les lits de soins palliatifs que l'on a maintenant, qui s'installent de plus en plus dans les hôpitaux, mais bien tardivement, sont des équipes qui malheureusement ne peuvent avoir une activité souvent que ponctuelle, c'est-à-dire que l'accompagnement du patient se fait plus par l'aide-soignante, par l'agent de service, par l'infirmière, et tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup dans les services ayant la disponibilité pour parler, en dehors de l'activité soins, qui représente encore malheureusement une grande partie de leur activité, et que l'on dispose de très peu de budget et de postes dans les hôpitaux généraux en particulier, et ce sont ceux-là qui, malheureusement, pour ramener le malade à proximité de sa famille, et ce sont dans ces hôpitaux qu'on dispose le moins de postes budgétaires qui permettraient de mettre des psychologues, des médecins formés, et la formation des médecins est extrêmement mauvaise, et il y a certainement un très gros malaise du médecin devant quelqu'un où il est totalement impuissant à lui apporter ce qu'il aimerait lui apporter. Et actuellement, il y a une réforme hospitalière qui est une réforme de tarification, qui est ce qu'on appelle la T2A, qui remet en cause la codification des actes médicaux dans les services et où finalement, ce qui sera rentable, ce sont les actes faits. Et le temps humain, le temps de parole, le temps que l'on va passer à s'occuper d'un patient pour simplement parler avec lui, risque de ne plus être pris en compte. Et malheureusement, le budget de l'hôpital, qui va être complètement transformé, puisque l'hôpital gagnera en fonction de ce qu'il fait. Et le risque, c'est que ces patients qui ne vont rien rapporter et prendre beaucoup de temps, on voit mal comment des investissements importants budgétaires pourront être faits pour les aider à partir du moment où l'hôpital n'aura plus les recettes qui lui permettront de le mettre en place. Et c'est un énorme danger actuellement.
Oui, donc pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, c'est pour ça que je disais que c'était polémique. Bien sûr qu'on peut tout à fait imaginer, je crois qu'on n'a pas beaucoup à se forcer, d'autant plus si on n'est pas en soi-même, qu'une mère peut tout à fait souffrir de l'horreur que vit son enfant. Mais pour reprendre aussi ce que disait un peu Laurence et Xavier tout à l'heure, une mère n'est certainement pas à même, de par ses propres projections, de jauger de façon extrêmement réaliste l'état de son enfant. D'autre part, et c'est là où bien sûr qu'on jette des parents dans la mare, c'est ça, on jette des pavés dans la mare, c'est qu'on sait très bien que le parent peut tout à fait avoir inconsciemment, c'est très douloureux ce que je dis, je le sais, et très dérangeant surtout, peut tout à fait avoir inconsciemment tout intérêt à se réapproprier son enfant. Alors, je peux vous donner deux exemples, je vais parler de moi, j'en suis désolée. Je me trouvais il y a quelques années dans un cimetière où j'enterrais les membres de ma famille je suis un petit peu allée voir de part et d'autre ce qui se passait, et puis j'ai vu un couple arriver très serein et je les ai suivis, un couple qui devait avoir une quarantaine d'années. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de préconscience comme ça, je me suis dit, alors ils avaient des fleurs blanches dans les bras, ils ont dû perdre un enfant. Effectivement, donc je les suis du regard, ils se dirigeaient vers une tombe qui était surchargée donc de fleurs blanches, et j'ai vu par la suite qu'il s'agissait d'un garçon de 17 ans, donc qui était décédé. Ce couple ensuite a rencontré d'autres relations, d'autres amis, et on assistait véritablement là à la renaissance, mais au sens péjoratif du terme, de ce garçon. Alors, on ne peut quand même pas être dupe en tant qu'analyste. On sait très bien, je vais prendre un exemple complètement basique, on sait très bien qu'un enfant qui va décéder à l'âge de 17 ans, c'est un enfant qu'on peut tout à fait idéaliser au plan social et qu'on peut tout à fait couper de toute vie affective. Ça, il n'y a pas de problème. A priori, il n'aura rencontré personne. Donc, c'est pour ça qu'on reste très tiède, nous, quant aux demandes de la mère, voire du père. Les pères sont très souvent beaucoup plus en retrait. D'autre part, dans un entourage proche, il y a 7 ans est née une petite fille. Cette petite fille est née avec un très lourd handicap, puisqu'elle était porteuse d'un spina bifida. Alors, il y avait eu plusieurs échographies, et on va dire analytiquement qu'elle s'était arrangée pour que le médecin ne voit pas ce handicap. C'est une enfant qui a été opérée de façon merveilleuse, puisqu'elle n'est pas débile, elle marche. Certes, elle a une atteinte sphinctérienne qui est extrêmement invalidante, mais enfin, elle est scolarisée, c'est une petite fille qui est jolie, qui est intelligente. Et je pouvais me permettre, de par le lien qui m'unissait à ses parents, je pouvais me permettre de poser séparément cette question, je leur ai posé la question. Alors que cet enfant est une enfant, en plus de ça, qui est très agréable, hein, j'insiste là-dessus. J'ai demandé aux parents si c'était à refaire. Est-ce que cet enfant viendrait au monde ? Ils m'ont dit tous les deux, et là je vais effectivement terminer par une question, ils m'ont dit tous les deux séparément que si c'était à refaire, il y aurait demande d'avortement thérapeutique. Or, moi, de mon point de vue, quand je vois cet enfant-là, pour moi, il est chargé de sens. Quand on connaît l'histoire des parents, c'est vrai qu'effectivement, elle devient miroir. Alors, vous savez que Dolto disait qu'effectivement, l'enfant était le miroir des parents, il est le miroir d'une famille. L'enfant arrive, effectivement, avec ses désastres, pourquoi pas, avec tout ce qui peut nous déranger, parce qu'on l'a idéalisé, ça nous renvoie à Khalil Gibran. Mais si Dolto disait qu'il faut faire le deuil de son enfant à la naissance, moi, je pense surtout qu'il faut faire le deuil de son enfant avant la naissance. C'est-à-dire que là aussi, il s'agit de mettre en place des axes de désidéalisation. La vie n'est pas parfaite, l'être humain finalement ne peut exister qu'au travers de ces différences, et je crois que tant qu'on ne soulèvera pas de façon peut-être
un petit peu plus sérieuse et un petit peu moins bénie oui-oui ces questions-là, moi je trouve que, du moins en tant qu'analyste, on rencontrera effectivement de l'incompréhension. J'ai tout à l'heure avec beaucoup d'attention le docteur Cheras qui disait qu'il manquait de psychologues dans les hôpitaux. Avec tout le respect que j'ai pour les psychologues, pour moi, ils n'ont pas une formation suffisante, ils ne sont pas psychanalystes pour prendre en charge des patients, effectivement, qui sont dans des états de détresse, voire de régression. Et là aussi, on n'est pas du tout entendu en tant qu'analyste, ça c'est une évidence. Donc, mais vous savez, la polémique qui existe bien sûr aussi à ce niveau-là.
Merci. Nous sommes obligés de clore. Deux, trois minutes, pas plus. Oui.
Ok, et on vous remercie de votre présence et de votre attention. Au revoir.